Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Un sentimiento de house.
Radio Rosanati Paris.
Lo que se reproduce que en la radio.
France Inter, le 18-20.
On n'avait pas imaginé que la demande serait aussi forte. Et tous ceux qui sont déçus par le système classique se dirigent ensuite vers les spécialistes de santé indigène.
Et c'est au Chili que je vous emmène dans l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, cette demande très forte, elle est pour les machis, les chamans qui font bien plus recette que la médecine traditionnelle, ce qui finit par interroger les autorités et le système de santé du pays. On le verra ensemble ce soir. Également, après l'heure, c'est plus l'heure. Le président de Sierra Leone demande à ses fonctionnaires de la ponctualité. On vous parlera aussi d'une lumière très bizarre à Pyongyang, au-dessus d'un hôtel vide. C'est sous les radars avec Florence Paracuelos. 18h50, le feuilleton écolo de Sandy Dauphin avec de nouvelles normes d'émissions de CO2 pour les voitures qui font déjà hurler de part et d'autre. C'est trop lourd, disent les constructeurs auto, c'est pas assez lourd, répondent les écolos. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, frappé la série d'accord par réaction, mais à quoi ça sert réellement? Mais avant un peu de Turquie, un peu de France, un peu d'États-Unis, le tout dans la même invitée. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Bonsoir, Denise Gemser-Guven. C'est la bande-annonce de votre film qu'on entend en ce moment. On vous a quitté avec Mustang il y a un peu plus de deux ans. On vous retrouve avec Kings qui sort ce mercredi. On vous a quitté sur la tentative d'émancipation de cinq jeunes femmes en Turquie. On vous retrouve avec les émeutes de Los Angeles en 1992 après l'acquittement des policiers qui avaient tabassé Rodney King. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que vous voyez, je sais que vous avez dit que votre premier film est en fait votre deuxième film, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui relie les deux selon vous ou pas?
Oui, alors déjà, ne serait-ce que dans la fabrication, enfin, ce sont deux films, bon, l'un tourné à South Central Los Angeles, l'autre sur les côtes de la mer Noire en Turquie, mais qui sont des films jumeaux pour moi et qui se sont propulsés l'un l'autre et qui ont vu le jour un peu de par l'autre et presque ensemble. À l'origine, Kings était mon premier projet de long métrage que j'ai commencé à travailler dès la sortie de la famille. C'est au bout de 5 ans et demi de recherche, d'écriture et de bataille en termes de production, rien ne marchait. Et Mustang a commencé comme un plan machiavélique pour faire Kings après. Ça a marché. Mais il se trouve qu'à un moment, je pensais vraiment que c'était fini, qu'on avait enterré Kings pour toujours. Et j'avais même désossé des morceaux du scénario de Kings pour les mettre dans Mustang. Donc pour moi, il y a des endroits, oui, par exemple, les scènes où les filles fuguent pour aller au match de foot et se retrouvent filmées à la télévision. Ouais. Ça, c'était une scène de Kings.
D'accord.
Les scènes de tout un tas de choses qui commencent à brûler dans la maison, pareil, ça vient de Kings. Ou même la scène de la tante qui va casser le transformateur électrique pour faire une panne de courant dans tout le village. L'idée d'une panne de courant partout, ça venait de Los Angeles.
Ça veut dire qu'on s'éloigne de la Turquie, on s'éloigne évidemment de votre pays d'origine, mais est-ce que ça veut dire aussi que vous voulez qu'on vous éloigne, vous, de la Turquie, en fait, qu'on évite de vous coller une étiquette? Tu es réalisatrice d'origine turque, donc il va falloir parler de ce que tu es, de ce que tu connais.
J'ai une identité qui est faite de métissage et puis il se trouve que parfois j'ai vraiment besoin d'aller faire un tour. Enfin, j'ai à la fois un rapport passionnel avec mes deux pays, enfin la France et la Turquie. La Turquie pour moi est presque, je le vois comme une espèce de à grande échelle, une espèce de grande famille dysfonctionnelle. Mm-hmm. Donc parfois on a vraiment envie d'aller faire un tour avec un père tyrannique et tout ça. Enfin, il y a des fois où voilà,
on a envie d'y aller pour voir, mais on a aussi envie de partir assez vite en fait.
J'ai un amour passionnel pour ce pays mais une fois de temps en temps, effectivement, il faut aller voir ailleurs. La France, j'ai l'impression que c'est un peu chez moi, mon lit, je me sens bien à l'aise et tout ça ici. Mais l'aventure souvent est ailleurs et voilà, donc pour l'instant, c'est de cet ordre-là que les choses se...
On va revenir forcément à votre pays, la Turquie, mais ça nous emmène quand même... Vous avez suivi comme moi qu'il y avait une sorte de procès en illégitimité quand Catherine Bigelow a voulu s'attaquer à un thème similaire. Elle avait parlé dans son film Détroit, d'émeutes d'un autre genre et à un autre moment. Du coup, vous, franco-turc, dans les rues de Los Angeles, en train d'essayer de faire du repérage sur une histoire de 92 qui concerne là aussi des Noirs, à quel moment votre légitimité a été discutée, questionnée? C'est pour ça que ça a été si difficile?
Non, jamais sur le terrain. C'est-à-dire que jamais quelqu'un à South Central m'a dit « c'est pas ton sujet, qu'est-ce que tu fais là ?» Au contraire, enfin, j'ai vraiment été accueillie à bras ouverts et bras ouverts, mais partout. C'est-à-dire dans, je sais pas, dans des églises, au poste de police, au sein des gangs, des familles, de monsieur, à côté de monsieur tout le monde. Vraiment, enfin, South Central est une espèce de d'îlot à Los Angeles dont les gens ne sortent pas et des étrangers ne viennent pas.
Et c'est-à-dire, où on ne rentre pas non plus, d'ailleurs,
non,
en effet.
C'est un quartier notoirement dangereux. Les Blancs n'y vont jamais, les touristes non plus. Donc, d'avoir quelqu'un qui arrive en se baladant en disant « je suis curieuse de vous », bah, c'est un bel d'air. Puis ensuite, je connaissais deux, trois blagues.
Ah oui, c'est vraiment non, comme ça, voilà, que ça marche.
C'est juste... non, y avait
c'est aussi
chose
simple
de...
que ça. On rentre à South Central, on raconte de blagues.
Non, mais c'est pas ça. Mais, mais par exemple, j'arrivais en disant « voilà en quoi votre histoire résonne pour moi ». Et puis après, les gens voient les voir qu'on fait. Donc sur le terrain, aucune discussion, jamais. Et en revanche, effectivement, enfin, comme pour Bigelow, oui, il y a des espèces de, soulève cette question de la légitimité, mais pour moi, la question de la légitimité est jamais à propos de si quelqu'un, un artiste, un réalisateur, a vécu ou pas quelque chose, ou le connaît de près ou pas, mais s'il connaît, s'il a saisi son sujet, enfin, et moi, j'ai passé des années à travailler sur ce film, j'ai mis ma vie en place pendant 12 ans pour arriver jusqu'à la complétion de ce film, donc, enfin, pour moi, voilà, la question se pose.
Ne s'est pas posé. Vous dites que vous avez expliqué aux gens en quoi cette histoire résonnait en vous. En quoi elle résonne en vous? Pourquoi elle a résonné en vous? Alors, c'est une jeune femme franco-turque.
Oui, au départ, je voulais raconter une émotion qui peut vous sembler comme une abstraction, mais en 2005, je m'étais fait refuser la nationalité française pour la deuxième fois, ce qui était pour moi du genre un chagrin d'amour immense. Et quelques mois plus tard, il y a eu les émeutes.
Je me souviens de la phrase d'ailleurs, parce que vous l'avez citée à plusieurs reprises. Vous n'étiez pas quoi, vous n'étiez pas pas matière. Il y a un mot comme ça qu'on vous a donné lorsqu'on vous a refusé la nationalité française.
Le texte de loi exact, c'était le cœur de vos intérêts matériels n'est pas en France. C'est ça, le truc implacable qui faisait que j'étais disqualifiée. Et mais après, il faut lire entre les lignes. Ouais. Pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Mais et la même année, donc il y a eu les émeutes de 2005, et je me suis dit, tiens, enfin, dans ces événements-là, je me suis dit, je ne suis pas la seule à ressentir cette espèce de chagrin par rapport à la France, il y a un problème d'intégration. Et en creusant de plus près les émeutes et en regardant les émeutes à travers l'histoire, enfin, elles ont toutes quelque chose en commun, c'est-à-dire ce même sentiment d'être dans un pays qu'on aime profondément, qui nous refuse, ce même... Puis ensuite, l'histoire est toujours la même, enfin, l'érosion du rapport de plusieurs communautés avec la police, une violence policière, ensuite une étincelle qui fait l'étincelle de départ, une vacance de pouvoir. Mais les émeutes de Los Angeles avaient quelque chose de particulier qui était sans doute leur ampleur et la télévision, les images, les faits divers qui étaient à l'origine de ces émeutes, le procès des officiers de police qui avaient tabassé Rodney King et ensuite les images des émeutes elles-mêmes ont agi comme une espèce de démultiplicateur de la colère et ces émeutes ont fait vivre à Los Angeles 5 journées sans loi, apocalyptiques.
Alors, allez-y, finissez votre phrase.
Et où tout pouvait arriver.
Et justement, je voulais qu'on écoute un petit bout d'extrait de ce moment et qui illustre parfaitement ce que vous êtes en train de raconter. Et on est vraiment dans ce moment-là. On est dans ce moment où l'état de droit... Parce que c'est peut-être aussi ça la différence avec les émeutes en 2005. L'état de droit n'est pas complètement disparu en France quand même à ce moment-là. Là, on voit une population entière livrée à elle-même. On voit des familles entières livrées à elles-mêmes. Il n'existe plus rien. On voit des flics qui sont complètement paumés, complètement déboussolés. En fait, et c'est ça effectivement qui fait peut-être la différence en 1992 à ce moment-là.
Oui, c'est juste le renversement d'un pouvoir... Enfin, c'est pas le renversement d'un gouvernement, mais la police a battu en retraite. Enfin, les gens sont tellement massivement descendus dans la rue que la police a battu en retraite. Et ensuite, pendant des années d'ailleurs, une espèce d'hyper-militarisation de la police est presque née après les émeutes de Los Angeles, à cause des émeutes de Los Angeles. Le fait d'avoir construit tout un tas d'outils pour contrer les foules ont été élaborés à cause de ça. Et d'ailleurs, j'y pensais quand on était dans les rues à Gezi en 2013, en Turquie, pendant le soulèvement de Gezi, quand on se prenait ces espèces de blindés dans la rue, les sprays des policiers, et on voyait des espèces de types qui ressemblent à Robocop chargés. Je me disais, tiens, ça, c'est à cause des émeutes de Los Angeles, paradoxalement, ça revient.
Et alors justement, tiens, puisque vous faites le parallèle, moi j'ai vu un parallèle aussi entre cette femme qui est votre héroïne, qui est famille d'accueil, qui a plein d'enfants, 7 ou 8 enfants comme ça, dont elle s'occupe, et qui fait de la résistance au jour le jour, finalement. Et d'une certaine façon, c'est la même résistance au jour le jour, à leur manière, que faisaient les jeunes filles dans votre film précédent.
Mustang. Oui, après, elle a vraiment quelque chose où, enfin, à chaque fois, les deux films ont cette espèce de résonance avec la société dans laquelle elles sont ancrées. Dans Mustang, pour moi, c'est un peu une parabole de la Turquie qu'on racontait. Et là, ce qui se passe dans cette maison où chacun adopte quelqu'un d'autre, où il y a un déséquilibre permanent, et ensuite, ça dégénère avec le début des émeutes, ça devient une espèce de petit ouragan où tout le monde serait parti à travers la ville. Ben, j'avais l'impression qu'on racontait à travers le mouvement d'une famille ce qui était ce qui arrivait dans cette ville.
Et ce qui arrivait dans cette ville, et ce qui arrive même dans l'Amérique d'aujourd'hui, une Amérique post-raciale ratée, en fait, puisque c'est ce que les Américains imaginaient. Ce qui est intéressant, c'est que votre film, il se tourne à ce moment charnière, entre Barack Obama et Donald Trump, en fait.
Bah, j'avais commencé à travailler sur Kings avant l'élection de Barack Obama, et à l'époque, vraiment, en suivant la campagne, je me disais, mais aucune chance. Enfin, ce que je voyais à Le South Side Show ne me laissait pas espérer qu'Obama serait élu. Ensuite, Obama a été élu. Même mes amis, le South Central, ont pris beaucoup de poids, se sont embourgeoisés. On se disait, ils sont devenus papas. Enfin, on se disait, ok, c'est bon. Enfin, la question raciale est derrière nous. Il n'y a plus de problème. Et en fait, non, c'est comme un espèce de serpent de mer qui repointe sa tête par moment. Et la preuve est faite avec l'élection de Trump que pas du tout. Et en fait, même quand on regarde la société américaine de plus près, par exemple, les échos de grandes tragédies comme l'esclavage, la ségrégation sont encore gravé dans la société américaine. Enfin là, j'ai passé tout l'hiver à la Nouvelle-Orléans. Les écoles sont à 99% d'une couleur ou d'une autre. Les bars sont d'une couleur ou d'une autre. Il y avait la fille d'une amie cette amie me racontait qu'elle était allée à New York. Elle avait demandé où était le bar noir. Et on lui avait dit, il n'y a pas de bar noir, de quoi tu parles? Mais elle était tellement habituée à aller dans des bars où il n'y avait que des noirs. Et autrement, ce serait que des blancs, quoi. Donc, les résonances de la ségrégation sont extrêmement présentes. Et pareil à Los Angeles, enfin, South Central, cet îlot. Et enfin, bien sûr, il y a tout un tas de gens qui ont transcendé la question raciale, qui l'ont dépassé. Mais il y a tout un tas de gens qui jamais ne franchissent une de ces frontières invisibles qui cloisonnent ce ghetto.
Je vais en profiter aussi pour vous ramener entre la France et la Turquie. Vous parliez de ce retour en arrière, ou enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un retour en arrière aux États-Unis d'ailleurs, quand il est question de la question raciale, mais en tout cas de ce retour après Barack Obama. Est-ce que chez vous, en Turquie aussi, vous avez l'impression qu'on assiste là à un retour en arrière? Et qui dit retour en arrière dit aussi d'ailleurs qu'il n'est pas impossible qu'on recommence à avancer un moment. Mais est-ce que c'est là qu'on en est en Turquie en ce moment, votre avis?
Je pense qu'en fait, on a le problème commun entre la Turquie et les États-Unis aujourd'hui, c'est qu'il y a à la tête de l'État des gens qui tisonnent les pires instincts d'une société. On a chaque société historiquement a mauvais démons. Il suffit juste de les piquer pour que ça ressorte. En revanche, il y a à la fois une espèce de chute totale de l'État de droit en Turquie, de la démocratie.
C'est ça. L'Amérique est encore une démocratie. Est-ce que vous diriez la même chose de la Turquie aujourd'hui?
Non, la Turquie, là vraiment, on est à une étape où non. Enfin, on peut pas entre le fait que c'est impossible de ne pas partager l'opinion du président et son parti sans
avoir des problèmes.
Rouleau compresseur de tout, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment un État qui met des journalistes en prison, met les opposants en prison, siphonne absolument qui veut siphonner et musait absolument tout le monde.
Ça veut dire qu'autour de vous, par exemple, vous connaissez, j'imagine, des gens qui ont décidé de partir, de ne pas rester. Est-ce que cette hémorragie dont on parle, effectivement, des jeunes comme vous, des gens entre 30, 40 ans, vont vivre leur vie ailleurs aujourd'hui? Ça se passe aussi autour de vous, j'imagine?
Extrêmement réel. Enfin, ce qui est le plus banal, là, c'est de voir les fêtes de départ de quelqu'un, les fêtes d'au revoir de quelqu'un. Moi, ce que j'écris le plus souvent, c'est des lettres de recommandation pour des visas de copains. Enfin, ça, c'est vraiment presque
quotidien,
soutenu, quoi. Quotidien non, mais très soutenu, et je peux même plus le reprocher à qui que ce soit. C'est-à-dire que effectivement, enfin, les gens aspirent à la liberté, même en Chine, là, il y a quelques jours, quand ils ont essayé de changer le système électoral, tout le monde a googlé la possibilité d'aller immigrer ailleurs. Enfin, les gens veulent la liberté.
Je ne peux plus le reprocher à qui que ce soit, dites-vous. Ça veut dire que vous avez pu le reprocher à un moment où quelque chose qui disait genre, mais attends de voir, il peut se passer quelque chose.
Ce qui s'est passé au moment de Gezi, par exemple, effectivement, ça a été une espèce de révélateur de qui avait quoi au fond de sa pensée, en fait. Et les gens se sont positionnés à ce moment-là, et on a été très surpris par la prise de position de certains, ou bien le manque de courage d'autres, et tout ça. Et on avait l'impression qu'on y allait tous ensemble, enfin, il y avait quelque chose presque un sentiment d'obligation de faire partie de l'histoire à ce moment-là. Mais aujourd'hui, le rouleau compresseur est tel Enfin, c'est-à-dire que exprimer une idée divergente du pouvoir en place, et enfin, il y a presque aucune voix pour résister. C'est-à-dire que même si on je sais pas, les gens qui sont encore journalistes en Turquie et qui témoignent, ils ont énormément de courage. Et d'ailleurs, s'ils y arrivent, donc le rouleau compresseur est quand même massif. Et ensuite, ce qui est très triste, c'est qu'on est vraiment divisé. Enfin, il y a une nouvelle division en Turquie, très très forte. Mais ce qui est aussi réjouissant, c'est de se dire qu'il y a quand même 50% à peu près du peuple turc qui attend, qui se tait aujourd'hui, mais qui attend des jours meilleurs. Donc, enfin, il y a. C'est pas fini.
Et j'espère pour vous que c'est pas fini. Non. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez pas faire Mustang aujourd'hui, par exemple, par rapport à 2014 quand vous avez tourné?
Même Mustang, en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'était déjà dans l'air. Et on était tous un peu sensibles à la possibilité de la Turquie de. Enfin, on commençait à voir le gouvernement de l'AKP changer de discours. Et donc, il y avait cette possibilité de rupture. Donc, même, je me souviens en 2013, quand le film avait été ajourné à l'année d'après, on s'était fait tous les scénarios de pourquoi est-ce que potentiellement en 2014 on ne pourrait pas tourner en Turquie. Une des choses possibles était que la Turquie parte en vrille. Et l'année d'après, c'est arrivé.
Est-ce que ça sera la dernière question. Est-ce que ça veut dire que ça redonne envie à la réalisatrice de se réattaquer à ces thèmes-là, en fait, ou pas?
Mais absolument. Enfin, moi, j'espère vraiment avoir une vie faite de films. Enfin, entre la Turquie, la France, les États-Unis, enfin trois, et puis peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin, si je me coupais quelques liens avec un seul de ces trois pays, je serais estropiée.
Eh bien, écoutez, gardez tous ces fils. En tout cas, merci beaucoup, Denise Erguben, de votre passage dans Un jour dans le monde. Kings, ça sort ce mercredi, bien sûr, partout sur les écrans.
France Inter. Fabienne Sintès, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde au Chili, où des chamans, on les appelle les machis, ont plus de clients que les médecins, ce qui montre un manque de confiance dans l'institution médicale, et ça commence à inquiéter sévèrement les autorités sous les radars. Et Florence Paracolos en Sierra Leone et en Corée du Nord ce soir. À suivre aussi le feuilleton écolo de Sandy Dauphin.
On parlera des émissions de CO2 de voiture quand votre conscience vous dit d'acheter une électrique, mais que finalement vous craquez pour un SUV.
Eh ben, on verra ce que dit notre conscience tout à l'heure. Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On va frapper en Syrie apparemment, mais pourquoi faire, on a envie
de dire. Dans cette ambiance de roulement de tambour, tentons de soulever quelques interrogations, tant qu'il est encore temps, sur la pertinence d'une action militaire.
Allez, le tour de la planète n'est pas fini, on passe par Israël avec Asaf Avidan, Sweet Babylon sur France Inter.
Take my body, pull it down, be the word upon my tongue, oh sweetest queen of harlots, let me taste your praise. Let me drown in you, let me feast, let me ride your seven-headed beast, let me strip defy you, step back in your gaze. And I know there's a night at the end of this night. I'm coming home, sweet Babylon, I'm coming. Bet your hills remember, your towers ring, ah, them tunes we used to sing. Let me try them on my lips again, you know I never miss a note.
chanson s'appelle Sweet Babylon, Asaf Avidan sur France Inter. Florence Paracolo, c'est là. Hello.
France Inter.
Good evening and welcome.
Irasmachival Papillon.
Deux jours dans le monde.
Intervention extra.
Florence, sous les radars, et vous nous emmenez en Sierra Leone. Pour commencer, le pays vient d'élire un nouveau président.
Julius Maada Bio, vainqueur d'une élection présidentielle saluée par l'ONU et Washington pour sa crédibilité. Julius Maada Bio est un ancien putschiste qui avait rendu le pouvoir aux civils il y a 20 ans. Le voilà de retour par les urnes, avec un objectif, faire décoller cette ex-colonie britannique d'Afrique de l'Ouest, dévastée par une guerre civile dans les années 90, marquée par une récente épidémie d'Ebola, et qui reste un des pays les plus pauvres du monde. Alors pour ça, il promet notamment l'école primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants et il demande à son peuple de prendre ses responsabilités. Samedi, il se tenait au centre du grand stade de Freetown pour parler à la nation et appeler les fonctionnaires à venir travailler à l'heure.
Please, please.
S'il vous plaît. Nous allons être stricts avec nous-mêmes. Pour les gens du service public, souvent vous dites 8 heures et puis vous oubliez 8 heures. Nous allons passer dans toutes les administrations, dans tous les ministères, bureau par bureau, pour vérifier si vous êtes bien à votre poste à 8h30 qui est l'heure légale. On doit tous prendre nos responsabilités. Donc, les fonctionnaires au boulot, vous noterez effectivement les acclamations de la foule. C'est le moment qui a suscité le plus d'acclamations, le plus d'applaudissements, plus encore que quand il parle de l'école gratuite pour les enfants. Il faut de la discipline, dit le nouveau président. La loi est au-dessus de tout. Et dans la série, chacun doit y mettre du sien. Julius Maada Bio vient aussi de décréter un cleaning day, un jour de grand nettoyage. Ça, c'est pour tout le monde. Chaque premier samedi du mois, la loi de l'horloge et du bas. Le grand ménage a commencé.
Allez, un spectacle nocturne à Pyongyang maintenant, Florence. C'était hier soir. L'hôtel Ryugyong s'est illuminé.
Le Ryugyong, qui n'a d'hôtel que le nom, est peut-être le plus grand bâtiment vide du monde, à cheval entre la pyramide et la fusée de verre. Et il culmine à 300 mètres au-dessus de la capitale nord-coréenne, aussi haut que la tour Eiffel. Hier soir, sa pointe s'est mise à scintiller aux couleurs du drapeau nord-coréen. Ses arêtes, comme d'immenses lignes jaunes, se sont détachées dans la nuit de Pyongyang et ses entrées ont brillé de mille feux. Fabienne, c'était Las Vegas sans les machines à sous, sans les limousines, sans les sans Elvis Presley, sans Céline Dion, sans les touristes, parce qu'il n'y a personne dans ce bâtiment conçu pour être l'hôtel le plus haut du monde. Sa construction a démarré en 87 sur ordre du père de la nation, Kim Il-sung. Le français Lafarge y a participé, puis le chantier s'est arrêté avec la fin de la guerre froide au début des années 90. Pendant 20 ans, ce fut une fantomatique carcasse de béton avant la reprise, puis l'achèvement des travaux extérieurs en 2011. À quoi ressemble l'intérieur du bâtiment? Ces 105 étages abritent-ils des chambres? Sont-ils seulement terminés, ces étages? Ça, on n'en sait absolument rien. Le mur qui entourait l'édifice a été abattu il y a un an. L'AFP dit qu'on y voit parfois de la lumière le soir. Avec les illuminations d'hier, les spéculations vont donc bon train sur l'ouverture prochaine d'un hôtel, mais le mystère reste entier. Ce qui est sûr, c'est que 3000 chambres, ça risque d'être difficile à remplir hors saison.
C'est un peu Shining, votre histoire. En tout cas, Florence, écoutez, tout ce que j'ai à dire, c'est que vous revenez demain à 18h37 et ce sera 37 pile parce que après l'heure,
c'est
plus l'heure. Allez.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Jessica Carmona. Asiento.
¿Alguna descendencia indígena?
No.
¿Por parte de mamá, papá, abuelos?
No.
¿Nada? ¿Consultorio dónde se atiende?
Nous sommes dans un cabinet de consultation, c'est à Santiago du Chili que je vous emmène dans l'escale reportage d'un jour dans le monde. Le quartier s'appelle La Florida, plutôt résidentiel, un petit jardin derrière un centre de santé publique. Rendez-vous est pris avec un machi. Et un machi, dans la culture locale, c'est un chaman, tout simplement, c'est un guérisseur. Bonsoir Justine Fontaine.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Justine, les Indiens, qui représentent 9% de la population chilienne, ont subissent encore d'ailleurs de nombreuses discriminations. Et souvent, ils ne font confiance qu'en leur machi pour se soigner. Du coup, les autorités l'ont compris et valorisent cette médecine avec un programme spécial que vous allez nous expliquer.
Oui, en fait, il s'agissait d'une part de permettre un meilleur accès des populations indigènes aux services de santé classiques, avec par exemple des médiateurs et des traducteurs, et d'autre part d'accorder des financements à la médecine ancestrale indigène, qui n'était absolument pas reconnue par les autorités et qui comptait de moins en moins de praticiens, les machis. Grâce à ce programme, quelques dizaines de centres ont donc été créés dans la région d'origine des Indiens Mapuches, mais aussi à Santiago, car une grande partie des Mapuches a migré vers les grandes villes.
Et donc nous y allons. Vous vous êtes rendue, Justine, dans ce cabinet médical un peu particulier qui attire de plus en plus de monde, des gens en quête de médecine douce et pas seulement des personnes d'origine indigène.
Depuis la rue, rien ne laisse penser que derrière ce centre de santé de la commune de la Florida se trouve un cabinet de médecine mapuche et encore moins une hutte cérémonielle indigène au milieu d'un petit jardin. C'est pourtant ici, devant cette hutte, que Manuel Linkoville reçoit ses patients. Il consulte habillé de foulards de couleur, de bijoux traditionnels et autour d'un totem en bois à visage humain.
On appelle ça le kemo kemo. Il y a aussi ces drapeaux. Des plantes comme le canelo. Tout ça ensemble, c'est le rewe, le lieu où deux mondes se rencontrent. Le monde des êtres humains et celui des esprits.
Manuel Linkoville est machi, c'est-à-dire guérisseur, mais aussi autorité religieuse de la culture des Indiens Mapuche.
Un machi est un esprit très ancien qui, dans le passé, a accumulé beaucoup de connaissances. Et depuis mon enfance, un esprit machi s'est emparé de moi. Et je suis en quelque sorte le véhicule de cet esprit.
Cet homme, qui a aujourd'hui l'âge de la retraite, ne voulait pas exercer en tant que machi. Il a préféré quitter sa communauté indigène dans le sud du Chili pour faire des études, puis travailler comme expert comptable.
Mais au bout d'un certain temps, l'esprit machi ne m'a plus laissé faire ce que je faisais. Je suis tombé très gravement malade. Et je n'ai pas réussi à me soigner avec les médecins, la médecine classique. J'ai dû retourner dans ma communauté consulter un autre machi. Et elle m'a dit, si tu as ce don et que tu le sais, pourquoi tu n'acceptes pas? Si tu le refuses, tu ne vas pas vivre très longtemps. Qu'est-ce que tu préfères?
Manuel Linkoville a donc commencé à recevoir des patients chez lui, puis ici, à la Florida, gratuitement, deux jours par semaine.
Ninoska Sepulveda.
Ce jour-là, vers 10h du matin, la salle d'attente du centre est pleine. Une vingtaine de personnes attendent d'être reçues par le machi. Il va analyser leur urine, les interroger sur leur vie personnelle, leurs problèmes de santé, avant d'établir un diagnostic. Il prescrit ensuite des herbes médicinales, ou parfois redirige vers la médecine occidentale.
Está bien pronunciado.
Ninoska.
Ninoska.
Sí.
Cette femme de 32 ans vient pour des douleurs d'estomac. Elle prend beaucoup d'antibiotiques, sans résultat pour l'instant, et cherche donc une autre solution. Comme près de 8 patients sur 10, ici, elle ne se considère pas mapuche. Un chiffre qui traduit le manque de confiance dans les services de santé dits classiques, selon le docteur Luis Nessa. C'est le directeur du centre de santé situé juste à côté de la hutte du machi.
La demande est importante. À tel point qu'ils sont passés à deux jours de consultation par semaine. Et la majorité n'est pas mapuche. Cela doit nous interroger, nous faire réaliser qu'il se passe quelque chose.
Un sentiment partagé par Claudovette Mialen, responsable du programme spécial des peuples indigènes au sein du ministère de la Santé.
On n'avait pas imaginé que la demande serait aussi forte. Et tous ceux qui sont déçus par le système classique se dirigent ensuite vers les spécialistes de santé indigène.
Malgré tout, la plupart des patients présents ce jour-là sont aussi suivis par un médecin dans le système de santé classique. C'est le cas de Ruth Varela, tombée en dépression après la mort de sa mère. Elle est venue renouveler son traitement à base d'herbes médicinales.
Pour moi, c'est un complément. Même si je n'aime pas les cachets, je dois en prendre matin et soir, et je fais des insomnies. Mais avec ce complément, je dors mieux. Je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais ça va mieux.
Un complément à la médecine classique, c'est bien comme ça que Samuel Linconao perçoit le centre de santé Mapuche de la Florida, qu'il a cofondé il y a 18 ans et dont il est aujourd'hui le directeur.
En tant que médecine Mapuche, en tant que culture, nous ne cherchons pas à entrer en compétition avec la médecine occidentale, conventionnelle, scientifique. Mais nous contribuons à la santé des gens et par conséquent au développement du pays.
Et il aimerait bien que l'État reconnaisse officiellement cet apport, soutienne davantage les centres comme celui-ci et la culture mapuche en général, encore largement dévalorisée au Chili.
Justine Fontaine pour France Inter dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. La culture mapuche n'a plus aucun secret pour nous. Allez, voici Manu Chao. Manu Chao, me gusta tu. Si on l'aime, me gustas tu, Manu Chao sur France Inter.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Sintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Et Sandy Dauphin qui essaie chaque semaine de refroidir la planète et de la reverdir au passage. C'est pas gagné, c'est pas faute d'essayer. Sandy, à Bruxelles, les lobbies sont dans tous leurs états. Voilà que les normes d'émissions de CO2 vont changer, augmenter à partir de 2025. Les constructeurs trouvent ça trop contraignant, les écolos trouvent ça trop laxiste. Or, il y a urgence, les émissions de CO2 des voitures neuves sont reparties à la hausse l'an dernier.
Oui, après des années de baisse, la courbe s'est inversée en 2017, du jamais vu depuis 20 ans. Alors une raison principale, la disgrâce du diesel. Oui, le diesel émet plus de particules, mais moins de CO2 qu'une voiture essence. Donc les ventes de diesel ont chuté. François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles.
D'un seul coup, moins de diesel vendu, donc beaucoup plus d'essence. Donc plus d'émissions de CO2 et des formats de voitures qui étaient avant des berlines qui maintenant deviennent des SUV. C'est plus haut, ça a une face plus carrée, donc ça a une moins bonne consommation que une berline beaucoup plus fine pour rentrer dans l'air.
Eh oui, les consommateurs préfèrent toujours acheter des grosses voitures plus lourdes, plus puissantes. Une voiture neuve sur 4 est une SUV. Les véhicules électriques ne représentent que moins de 2% du marché.
Et les constructeurs automobiles, Sandy, sont sous la menace de sanctions européennes très lourdes.
Oui, l'objectif est de ramener les émissions de CO2 en moyenne à 95 grammes par kilomètre en 2021. Le meilleur élève dans cette catégorie, eh bien, c'est Toyota, 98 grammes, grâce à ses voitures hybrides. Les constructeurs français ne sont pas loin du but, avec 107 grammes. Les Allemands, avec leurs grosses voitures, tournent plutôt autour de 120 grammes. General Motors, lui, eh bien, il est hors des clous, hein, 270 grammes. Mais le géant américain ne vend pas assez de voitures en Europe pour risquer des sanctions de Bruxelles.
Alors comment les constructeurs pensent-ils parvenir à ces objectifs, Sandy ?
Eh bien, ils misent sur les progrès de la motorisation essence des voitures, mais également sur toute une gamme de véhicules qu'on appelle désormais électrifiés, que ce soit des hybrides rechargeables et bien sûr les voitures 100% électriques.
Mais pour la Commission européenne, il faut aller encore plus loin.
Oui, la Commission propose de réduire encore de 15% les émissions de CO2 des voitures neuves en 2025 et de 30% en 2030. Et c'est toujours insuffisant d'après Transport et Environnement. C'est une ONG européenne qui a pignon sur rue. Elle s'attaque au lobby du diesel et milite pour des voitures plus propres. L'un de ses ingénieurs, Florent Grelier.
Nos estimations montrent qu'il faut entre 50 et 60% pour 2030 pour respecter les accords de Paris. La clé sera l'électrification des véhicules progressive, donc tout d'abord par les hybrides, mais surtout par les véhicules électriques avec des batteries. Il n'y a pas une volonté réelle des constructeurs de vendre ces véhicules-là. Le choix des véhicules électrifiés est de l'ordre de 20 modèles par rapport à plus de 400 pour des véhicules classiques. Il n'y a pas vraiment cet effort réel de la part de l'industrie.
Donc pas d'effort réel de l'industrie, c'est ce que dit cette ONG. Et les constructeurs automobiles répondent ?
Eh bien, ils disent que ce n'est pas réaliste d'un point de vue économique. Ils pensent que 20% de réduction de CO2 en 2030 pour les voitures neuves, c'est l'effort maximum auquel ils peuvent consentir. Alors 30%, vous imaginez, les 30% donc proposés par la Commission européenne, c'est beaucoup trop, estime Jacques Roudier, porte-parole des constructeurs automobiles français.
Attention, techniquement, on peut faire des voitures qui arrivent à ces objectifs-là, mais il faut que les clients les achètent. Pour ça, il y a deux conditions. Il faut que on puisse recharger son véhicule partout où on le veut, aussi simplement qu'on peut mettre de l'essence dans sa voiture. Et puis, il faut que le prix de ces véhicules ne soit pas complètement prohibitif.
Diminuer l'empreinte carbone des voitures est crucial pour le climat. En Europe, le secteur des transports représente à lui seul le quart des émissions de CO2. Mais bien malin celui qui peut dire à quoi ressemblera exactement la voiture propre dans 20 ans. L'industrie est en pleine mutation entre l'essor de la voiture partagée, connectée, autonome, les progrès attendus sur les batteries, sur l'autonomie, sans parler de la voiture hydrogène et des biocarburants.
Allez, l'occasion de revenir comme ça tous les mardis. Merci beaucoup Sandy Dauphin, Jean-Marc Fourella. Qui fait du vélo d'ailleurs.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Jean-Marc Four et le monde à l'envers. Jean-Marc, Paris et Washington ont décidé, semblent décider à frapper la Syrie. On en saura plus après la résolution qui est à l'ONU en ce moment, qui sera votée tout à l'heure à 21h. Ou pas votée d'ailleurs. Français et Américains estiment que Bachar el-Assad a passé cette fameuse ligne rouge sur l'utilisation des armes chimiques. Comme toujours, vous, vous prenez le monde à l'envers et vous allez poser quelques questions qui dérangent. Frapper la Syrie, d'accord, mais pourquoi faire après ?
Au premier coup d'œil, c'est tentant. Parce que oui, ces images d'enfants morts à Douma, victimes d'armes chimiques, sont insoutenables. Parce que oui, Assad massacre son peuple et qu'il est probablement le responsable de ce nouveau crime de guerre. Et parce que oui, pardonnez-moi de le raccourci un peu cash, mais il y a de ça, ça soulage, histoire de faire comprendre à Assad que la menace de représailles n'a pas été brandie à la légère. Mais marquons une pause pendant qu'il est temps, et tant pis si c'est pas politiquement correct. Première interrogation, où est la cohérence intellectuelle sur cette histoire de ligne rouge ? Petit flashback. La ligne rouge, c'est la formule employée par Obama en 2013 pour affirmer qu'en cas d'utilisation avérée de l'arme chimique, il y aurait représailles. Sauf que la ligne rouge, elle a été franchie allégrément, non seulement en 2013, mais ensuite au moins 7 fois, selon les enquêtes internationales. Les ONG parlent même de 50 utilisations de l'arme chimique. Combien de fois les Occidentaux ont-ils réagi ? Une seule fois, il y a un an pile avec une frappe américaine consécutive à une utilisation de gaz sarin et c'est tout. Donc cette histoire de ligne rouge ne vaut rien en termes de cohérence intellectuelle. Pour une fois où on réagit, il y a 10 fois où on ne réagit pas.
Ouais, mais enfin quand même, et vous l'avez un peu évoqué Jean-Marc, les images de ces enfants qui sont presque morts, qui sont la bave aux lèvres dans cette zone rebelle de la Douma, c'est épouvantable.
C'est vrai, mais il y a là aussi un mais. Autant parfois la responsabilité du régime Assad a été indiscutablement établie, autant en l'occurrence il y a un doute léger, mais il y a un doute. Et c'est ça qui est troublant. Quand c'était absolument certain, on est resté les bras croisés, et là où c'est seulement très probable, on veut frapper. Je m'explique. À Douma, c'est un mélange de chlore et d'un autre composant létal qui semble avoir été utilisé. Ce mélange est très volatile, il est donc difficile d'établir avec certitude d'où il a été envoyé. Et d'autant plus difficile qu'il n'y a plus de mécanisme d'enquête internationale piloté par l'ONU. Alors, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a quand même annoncé cet après-midi l'envoi d'une mission à Damas. C'est une bonne chose. Parce que sinon, le risque, c'est de s'en remettre à faisceau de présomption des services. Et là, n'ayons pas la mémoire courte. En 2003, les services américains affirmaient que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. On connaît la suite, la guerre en Irak, des armes introuvables. Vous allez me dire, c'est différent. Là, on sait qu'Assad possède de telles armes. C'est vrai, mais il serait quand même cohérent d'établir la preuve absolue qu'il les a utilisées à Douma. Sinon, on va se retrouver avec une intervention militaire sans mandat international et sans démonstration irréfutable de sa justification.
Alors, l'autre question, Jean-Marc, quand même, que vous voulez soulever, c'est celle de la tactique militaire là-dedans.
Oui, admettons qu'on passe outre ce premier point, à l'absence de cohérence sur la ligne rouge. Soit, on frappe militairement. Mais qui, où, comment, dans quel but ? Le plus probable, c'est une opération franco-américaine coordonnée avec avions rafales et tirs de missiles de croisière des porte-avions américains. Et peut-être un soutien logistique britannique. Pour frapper quoi ? impossible de localiser précisément les stocks d'armes chimiques d'Assad, donc on ne pourra pas les détruire, du moins pas d'un seul coup. Donc on va viser uniquement des symboles, des bases militaires, peut-être des emblèmes du pouvoir. Le tout sans garantie de succès opérationnel, parce que les Russes ont depuis 2 ans déployé d'importantes défenses antiaériennes, et avec un risque d'engrenage évident. Quant aux populations civiles syriennes, elles auraient davantage besoin de ponts aériens et de corridors humanitaires.
Donc la question suivante, c'est qu'est-ce qui se passe après ?
C'est ça, c'est la troisième interrogation, et ça c'est la plus importante, c'est-à-dire qu'au-delà de la tactique militaire ponctuelle, et on va en redébattre dans le journal de 19h dans un instant avec Sébastien Paour, quelle est la stratégie politique ? On fait boum et après on fait quoi ? Il y a un an, je vous le disais, Trump nous a déjà fait le coup, il a fait cogner sur une base militaire syrienne la charge de la cavalerie, et après, rien. Il a progressivement retiré ses troupes du terrain syrien. C'était donc juste, pardonnez-moi l'expression, mais un truc de matamor, une posture. Vous avez vu, on a rappelé Assad à l'ordre. En fait, rien du tout. Assad, il a fait une pause et puis il a recommencé avec les armes chimiques un peu plus tard. Donc la question, c'est bien celle de la stratégie diplomatique et politique. Ensuite, souhaitons qu'il y en ait une.
Jean-Marc Fouhr qui met le monde à l'envers tous les soirs dans Un jour dans le monde.